Bonjour, nous recevons aujourd'hui, merci d'être venu jusqu'à notre micro, deux comédiens qui sont à la scène et dans la vie, comme on dit. Je ne sais plus quelle est l'expression consacrée. Emmanuel Granger, bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Bosque.
Bonjour.
Bonjour. Alors, ce qui m'a donné l'idée de vous faire venir dans ce brigadier, c'est quand j'ai vu les chaises de Dionysco que vous avez joué il y a peu de temps à l'aquarium. On va en parler après. Mais d'abord, présentons-nous, présentez-vous. Je commence par vous parce que je sais que vous êtes fils ou petit-fils de Pasteur.
Je suis fils et petit-fils
et
filleul de Pasteur.
Ah, vous êtes chez vous ici,
oui,
alors.
Oui, alors là, oui. J'ai même fait jouer dans le temps à mes débuts, parce que je faisais surtout de la mise en scène au départ. J'ai fait jouer des gens déjà chevronnés, mais aussi des jeunes acteurs comme moi, comme par exemple fils de Jean Bosque, Didier Bosque, qui n'est malheureusement plus de ce monde, qui serait sans doute un excellent comédien actuellement. Voilà.
Mais tu les as fait jouer dans... Où ça ? Il faut que tu le dises, ça.
Je l'ai fait jouer. En plus, j'ai squatté le temple. J'ai commencé à faire de la mise en scène en squattant, avec son accord, le temple de mon père.
Lequel, le temple de votre
père ? Le foyer de Grenelle.
Ah, le foyer de
Grenelle.
Qui
appartient à la mission populaire.
Ah, ouais.
Voilà.
La mission.
Et ils sont venus voir ces quelques représentations dans ce temple, des gens Jean-Pierre Vincent, Chéreau, etc.
Oui, tout petits, quoi.
Oui.
Mais alors, le protestantisme, pour vous, c'est culturel, ou il y a une foi, il y a une croyance?
Écoutez,
ou pas,
alors, je suis très embêté pour répondre s'il
c'est
y
pas
y a
obligé.
Une foi. Ma foi, ça reste quand même très présent, on me le dit.
Oui. Ça marque, hein, quand même.
Je suis loin d'être très clair là-dessus. Sinon, je suis plutôt agnostique, mais voilà.
Oui, ça marque quand même, culturellement en tout cas, comme
voilà,
je disais. Hein.
Voilà, mais je suis resté très proche, bien sûr,
proche, ouais.
De toute cette mouvance.
Et vous, alors, excusez-moi, j'ai commencé par monsieur, parce que je savais ça, mais vous êtes aussi protestante ?
Vous avez bien fait, parce que... Non, j'ai, comment on va dire, une éducation religieuse catholique.
Catholique ?
Ouais. Catholique.
Une papiste dans le...
Voilà, exactement. Bon, voilà, mais une éducation comme on faisait...
Autrefois.
Je veux dire, oui, autrefois, voilà, on va dire autrefois... où effectivement c'était plutôt la religion catholique, donc le catéchisme catholique, enfin les choses comme ça, voilà.
Et vous êtes aussi, c'est culturel ou vous êtes aussi...
C'est culturel.
Et alors,
multiculturel.
Alors maintenant, on sait, vous avez répondu à une de mes questions, puisque vous avez commencé déjà dans le temple à Grenelle. Mais vous, comment c'est arrivé le théâtre chez vous ?
Alors, moi, c'est arrivé assez tard, parce qu'en fait, j'ai commencé... J'ai vécu toute ma petite enfance et mon enfance à Berlin. À Tübingen et à Berlin. Et à Berlin, j'ai passé mon bac et ensuite je suis arrivée à Strasbourg pour faire des études très sérieuses puisque j'étais en hypocagne à Strasbourg.
Wow.
Ensuite, j'ai fait sciences politiques, j'ai fait une licence de sociologie. Il me manquait quelque chose de l'ordre de... ça va pas être vulgaire, mais quand même un petit... Non, c'est pas très vulgaire.
Fantaisie.
Mais de bouger un peu mes fesses, vous voyez ce que je veux dire ? Donc le
fantaisie.
Cerveau fonctionnait peut-être assez bien, mais il me manquait le mouvement. Donc j'ai commencé avec le théâtre universitaire, à faire un peu de théâtre universitaire. Puis un jour, je me suis pris au jeu, et puis les uns et les autres m'ont dit « Pourquoi tu présenterais pas le concours du Théâtre National de Strasbourg ?» Donc, voilà. Je suis tombée dedans, j'ai réussi.
Dedans quand j'étais grande.
Voilà, exactement. Oui. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre assez grande, alors que Thierry, pas du tout.
Ah oui, lui, il a commencé.
Non, j'ai commencé
très tôt,
au lycée.
Très tôt. Il n'était pas mûr du tout, mais il a commencé.
Qu'est-ce que vous en savez ? Vous n'étiez pas là.
Voilà.
Mais vous avez... Alors, après, entre-temps, vous allez me dire, mais c'est dans les années 70, je crois, que vous avez fondé, donc je suppose avec Jacques Nichet, Jean-Louis Benoît, Didier Bezas. Le théâtre de l'Aquarium.
C'est bien après.
C'est bien après. En fait, et alors, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, entre les deux, j'ai récupéré, j'ai renfloué mes dettes comme metteur en scène en travaillant au cinéma.
Ah oui, vous avez tourné pas mal de films.
Oui, enfin.
Avec Gavras, entre autres,
c'est
oui,
pas n'importe exactement. Qui. Exactement, à ce moment-là. Voilà, ce moment-là. C'est vraiment à ce moment-là. Voilà, et j'ai joué dans une autre compagnie, vous voyez. Quand
mais même... vous aviez créé une compagnie, non?
Au alors, départ, j'avais créé, vous avez créé une compagnie qui s'appelait la compagnie de la rue de Lavre, la compagnie de Lavre, du nom de la rue. Et puis ensuite, j'ai fait partie d'une autre compagnie. Les compagnies étaient surtout à cette époque-là d'origine universitaire, comme l'Aquarium, laquelle
oui,
je vais rejoindre plus tard. La troupe.
C'était des copains de,
voilà.
D'études.
D'ailleurs, moi, je fais partie du groupe Nichet.
Mais il m'en manque un, là. J'ai dit Jean-Louis Benoît, Jacques Nichet, Bezas, il m'en manque un.
C'est
vous et
moi.
Il en manque
et
un,
puis il y a, bah, y en a plein d'autres. Il y a Karen Rancurel.
Non, mais à la base, il y en a
À la base, c'est vraiment ça.
C'est ça.
Avec Bruno Gentil, qui était notre administrateur, qui l'était déjà de la troupe universitaire.
Mais quand on regarde sur Internet, il y a une liste impressionnante de spectacles dans lesquels vous avez joué.
Oui, ça commence à...
Ça commence à faire beaucoup.
C'est-à-dire, il y a une drôle de chose, c'est que depuis que je suis à la retraite, je n'ai jamais autant travaillé non plus. Donc ça double, c'est comme ça. Hein.
Mais c'est plus théâtre que cinéma. C'est volontaire ou c'est parce que ça s'est fait comme ça?
C'est pas totalement volontaire, mais ça l'est quand même. Et le fait d'être au théâtre assez souvent met des bâtons dans les roues pour une quelconque carrière cinématographique. Hein. Derrière la caméra, on n'aime pas les gens qui sont... Je sors d'un casting, là. Je sors d'un casting. Et je sais déjà...
Que vous n'êtes pas pris.
Que je serais pris si j'avais toutes mes dates libres. Vous voyez Et voilà. Bon.
Et vous, le cinéma, non? Vous avez tâté du cinéma?
Alors, écoutez, moi, j'ai eu... Non, pas beaucoup non
pas
plus.
Beaucoup.
C'est plutôt le théâtre. Mais en revanche, j'ai connu quand même des gens absolument formidables, dont René Alliot, quand même.
Ah oui, quand même.
Voilà. Donc, je suis très fière, quand même.
Mais alors, vous êtes écrivain et on est en plein dans l'actualité. Alors, moi, ce que je sais de vous comme écrivain, que je n'ai pas lu, je suis désolée, mais j'y viendrai, j'ai son absence, si j'ai bien compris, c'est sur la disparition volontaire d'un homme.
Oui,
donc
c'est ça.
C'est un peu famille.
Non, c'est la. C'est la disparition. Je suis partie du fait que d'un. Comment dire. D'un article juridique qui dit que, au bout de 20 ans, quelqu'un d'absent peut être déclaré absent par la famille. Pour des questions d'héritage, des choses comme ça, donc on le reconnaît réellement absent. Donc mon roman commence le jour même où toute la famille, donc c'est une grande famille. D'ailleurs, il y a des protestants dans cette famille, je ne sais pas pourquoi.
Diable.
Et donc toute cette famille, le père, la mère et les enfants qui ne sont pas absents, eux, se rendent au tribunal pour déclarer cette absence-là. Et c'est le prétexte de parler de...
C'est après les 20 ans, donc.
C'est après les 20 ans, ils se retrouvent tous là, et moi, je parle de cet absent. Voilà, et de comment du ressenti de la famille depuis 20 ans.
Parce que je crois que la loi dit qu'on a le droit de disparaître comme ça, sans dire où on va, sans... J'ai entendu dire
oui, surtout quand on est majeur.
On disparaît, et puis on peut prendre notre identité et faire ce qu'on veut. Alors, le second bouquin, donc, sort.
Oui.
Ça s'appelle « Les amers remarquables ». Et si j'ai bien compris, c'est aussi sur la famille.
Oui, c'est sur une famille assez précise puisque c'est la mienne. C'est je parle de cette enfance à Berlin, mais en même temps de j'espère en tous les cas c'est le retour que j'en ai et merci. Donc j'ai peut-être un petit peu réussi ce que je voulais atteindre, à savoir que j'espère que cette espèce de roman comme on dit, autobiographique, est un peu plus que ça, qu'il est universel. Et les retours que j'en ai pour l'instant...
C'est chez qui? Chez Arléa, non?
Chez Arléa.
Arléa.
Mais elle a des retours tous les soirs, tous les jours.
Ah, c'est super.
Elle a des retours.
C'est super.
Des critiques, donc c'est plutôt positif, quoi.
Et comment vous reliez le théâtre et le... Vous n'avez pas envie d'écrire sur le théâtre, d'écrire une pièce
Non, ça vient pas. Pour l'instant, non.
C'est ce que je lui demande toujours. Mais...
une pièce pour vous deux,
non,
ça serait bien.
Mais écoutez, comment on fait Comme beaucoup disent, j'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite, oui. On va dire ça. Mais c'est surtout parce que le théâtre est... Et surtout pour les femmes. On est quand même beaucoup moins demandé au théâtre, nous les femmes, que les hommes. Il y a beaucoup moins de
rôles.
Comment
pour les
dire,
femmes.
Oui, le répertoire est beaucoup plus masculin. Donc, eh bien, écoutez, quand je ne joue pas, quand je ne répète pas, j'écris. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc j'ai deux. Voilà, maintenant je suis comédienne et écrivaine. Un point, c'est tout. Et peut-être autre chose, on ne sait jamais.
Autre chose, et on va, vous n'écrivez pas, si ?
Non.
Mais j'ai trouvé, en fouillant sur Internet, un truc qui s'appelle 30 mots de Thierry
ah, oui.
Bosque, c'est ça ?
Ah, oui.
C'est mis en musique par
Franck Lovisolo.
Oui, il a un nom rigolo, ce monsieur.
Lovisolo, on dit.
Lovisolo.
Hein. Lovisolo. Qui est un grand ami.
Et alors, c'est venu comment, ça ? C'est vous qui avez...
C'est lui qui m'a demandé.
C'est lui qui vous a demandé.
Comme il l'avait demandé à ma femme aussi.
Vous avez mis les mots sur la musique ou la musique sur les mots ?
C'est lui qui a mis la musique et moi, j'ai choisi les mots.
Ah ben, si on peut en écouter un petit bout, merci à Emmanuel.
Apprendre.
Générosité. Singulier. Minorité.
Voilà, donc on peut redire le nom du musicien.
Franck Lovisolo.
Voilà, sur les mots de Thierry Bosque, choisi par Thierry Bosque, et Emmanuel Granger a fait la même chose, mais on ne l'a pas là, mais
ben
vous pouvez chercher. Donc, je voudrais parler de vos chaises, parce que j'ai été très... J'en ai parlé déjà au moment où ça passait, dans une autre émission, mais j'ai été très frappée par cette mise en scène, par votre jeu, et par la mise en scène de Bernard Lévy, parce que il n'a pas fait une actualisation, mais en même temps, on se trouve complètement dans le monde d'aujourd'hui. Alors, on va y venir, mais on pense à Alzheimer, à la solitude, on voit tout ça, et tout en gardant le texte.
Ouais.
Et ça, j'ai trouvé, et avec votre jeu, j'ai trouvé ça formidable. Alors, le lien qui vous unit dans la vie, je pense que ça a forcément été un plus. En tout cas, nous, on le ressent comme ça, parce qu'il y a une complicité qui doit être encore plus forte. Et est-ce que ce lien... Vous avez déjà joué ensemble ? On reviendra aux chaises après.
Oui. On a joué quelques fois, mais pas tant de fois que ça.
Pour vous, c'est un plus ou c'est plus gênant pour vous deux ?
Ah non, c'est surtout pas gênant.
C'est bien.
Non, c'est un plus. On va dire que c'est un plus.
Oui,
hein,
oui, tout à fait.
Non, moi,
on peut se dire, tiens, on va s'affronter.
C'est super.
Et puis finalement, tout se passe très bien. Là, je crois que c'était une très belle idée de la part de Bernard Lévy, parce qu'on a répété, la prod n'était pas longue, on a répété qu'un seul mois.
Ah,
donc
oui,
il est
beaucoup.
Évident que les habitudes et notre complicité,
ça a aidé. Hein.
Ça a aidé.
Oui. Et ça se sent, ça se voit. Voilà. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il a mis, je crois que... Alors, je voudrais dire quand même que UNESCO, que je ne dise pas de bêtises, on a, le 23 mars, à La Huchette, c'était la 19000e représentation de la cantatrice chauve.
Oui.
C'est fou.
Oui.
Et Les Chaises, c'était sa dernière pièce, non?
C'était sa dernière.
C'est la plus étrange, la plus sublime.
Hein. Mais qui n'a pas été jouée, justement, à La Huchette. La Huchette, c'était toujours...
La cantatrice et la leçon. Voilà. Et donc, c'est ce vieux couple nonagénaire qui... Alors ça, c'est formidable, parce qu'il y a le... Bon, vous êtes un peu plus baraqué, et puis la fragilité à côté de madame. Et il y a une scène formidable où vous êtes... Alors, des nonagénaires, puis on la voit grimper sur une chaise et relever sa jupe, enfin sa robe. C'est formidable. Donc, ce vieux couple, un vieux couple, on imagine quelconque, qui a eu une vie quelconque, qui est triquée. Et donc... UNESCO les situe sur une île, je crois.
Oui.
Et là, il les a mis dans une espèce de cage de verre qui représente, on ne sait pas si c'est une maison de retraite, un appartement, peu importe,
oui.
Mais qui nous pose, nous, spectateurs, comme des voyeurs, d'une certaine manière. Mm. Comme si on les surveillait.
Oui.
Et ils sont là. Et moi, ça m'a fait penser aussi à une espèce d'arche de Noé où on aurait préservé le dernier couple. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé.
Mais si, vous avez bien pensé, parce qu'on le dit tout au début, après on
ah,
a fait très peu
allusion,
c'est-à-dire que elle-même, la vieille, dit à un moment donné, je ne peux pas m'habituer à cet endroit tout entouré d'eau, de l'eau sous les fenêtres jusqu'à l'horizon.
Mais vous
voyez comme quoi le texte de UNESCO, ça reste hein, une phrase et puis hop, ça reste. Et la preuve. Mais l'Arche de Noé, c'est assez joli, hein, ce que vous dites.
Ah, moi,
là.
Ça m'a fait penser
moi,
tout de suite à ça.
Ça me plaît bien, ça.
Parce qu'ils sont complètement isolés.
Oui.
Et puis, comme
ils
si on les...
Ils sont les derniers animaux.
Oui, comme si on les préservait.
Oui.
Voilà.
Oui,
oui. Alors, ils sont là dans leur cube. C'est un soir d'adieu. Et ces deux espèces de godots, j'ai envie de dire, qui sont en attente, on sait pas de quoi, de Dieu peut-être, de la mort, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Mm. On est tous. Et qui convoquent des tas de gens, des espèces de fantômes, puisque on apporte des chaises en toute urgence et les chaises sont vides.
Oui.
Il y a une accélération c'est lui qui demande que les chaises arrivent de plus en plus vite.
Oui, parce qu'il y a de plus en plus de sonneries. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des sonneries dans la tête de ces gens-là?
Est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils sont...
Non, ils convoquent. Alors, au début de la pièce, on dit que tous les deux convoquent tous les soirs. Elle demande, oh, raconte-moi encore cette histoire. Elle lui dit, oh, encore une fois. Et puis après, il y a ce fameux message qu'il faut quand même délivrer. UNESCO a toujours eu un message à dire. Hein, à
tous. Ce qui doit se délivrer à la fin, qui ne se délivre pas.
Exactement. Donc, ce jour-là, c'est le moment. Et la vieille, d'ailleurs, est un peu anxieuse de ça, mais quand même, elle y va avec lui qui est quand même celui qui dirige un peu l'affaire, et elle suit avec plaisir, d'ailleurs, elle se prête au jeu. Mais voilà, oui, il y a une espèce d'angoisse comme ça qu'on oublie aussi. Autant au départ, on se dit, ah bah oui, ça va être la fin, puis après, on l'oublie par l'espèce de ludisme qu'il y a aussi, les choses qui les dépassent un petit peu, jusqu'au moment où l'orateur va arriver et où le vieux va dire bon ben voilà, délivre le message et puis nous on va s'en aller parce que c'est...
Mais l'orateur, il arrive avec sa perfusion, il peut pas marcher,
ça,
il est sourd muet.
Ça, c'est
un parti pris. C'est pas UNESCO, ça.
Non.
Et c'est Michel.
Chez UNESCO, il arrive, il signe des autographes avec les personnages imaginaires. Et ensuite, il va essayer de parler et il est muet, donc ce ne seront que des onomatopées.
Des borborygmes.
Voilà.
Alors que là, il dit rien du tout. C'est Michel Fouquet qui joue ça.
Voilà.
Et c'est marrant
Michel
parce qu'il n'a rien à dire, mais il a une présence.
Ah,
mais quand il arrive avec ça, on le voit arriver dans le couloir au fond, il arrive avec sa perf, comme ça, sa perche de perfusion.
Oui.
Et c'est fou, parce que c'est pas facile d'avoir un rôle court à la fin où on n'a rien à dire. Et il est là. Il est là parce qu'il est la conclusion, d'une certaine manière, hein, laquelle on ne sait pas chacun.
Il était très difficile de trouver un bon comédien pour remplacer l'ancien, qui était Alexis Danavaras. Et là, ce Michel Fouquet est un ami à tous les deux, un ami commun. Et en effet, il a accepté, c'est quelqu'un qui a joué des rôles beaucoup plus importants. Et là, ça a été formidable, parce que d'ailleurs, il en redemande, il voudrait que ça tourne.
Alors ça, c'était une de mes questions. Est-ce qu'il y a, pour nos auditeurs, des reprises, des tournées ou quelque chose?
Très certainement pas la saison suivante. Pour la bonne et simple raison que moi, je tourne autre chose. Le Roy Blas, c'est un classique. Wow. Mais la saison d'après, il y aura certainement une tournée d'organisation.
2020-2021.
À peu près sûr. Il
faudra nous prévenir, on le redira.
Oui. D'accord.
Mais vous avez travaillé aussi très physiquement sur ce truc, parce que la démarche hésitante,
là, il y a toujours une chose, effectivement. Moi, je me dis, mais attends, comment j'ai fait, moi, pour être... En fin de compte, le texte, le metteur en scène, le partenaire, enfin le texte, je dirais surtout, aide beaucoup. Et puis aussi parce que, par exemple, en ce qui me concerne, je suis affublée d'une perruque que j'ai eue
On ne vous a pas arrangé.
Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Donc la perruque est arrivée au tout début des répétitions, la robe aussi. Donc cette espèce de costume, on va dire, et qui aide beaucoup en fait le comédien. Et puis le texte, et puis simplement se dire des choses, mais comment font les gens plus âgés que moi? Je suis pas une tout à fait jeune, mais je suis
80,
pas non plus
90 ans.
Voilà, je ne suis pas non plus de cet âge-là, de 90 ans. Donc en fait, il s'agit juste de regarder un petit peu autour de soi, mais pas tant que ça. C'est pas une composition vraiment. La démarche est un peu plus lente. Les choses sont un
lui
peu
aussi,
plus lentes.
D'ailleurs. Lui
mais
aussi.
Voilà, pareil hein, pour Thierry, bien sûr. Et donc c'est juste ça, plus le texte qui est là, et puis ce parti pris de la mise en scène. Voilà. Et c'est pas. Je vous assure que. On n'a pas cherché des heures et des heures. On n'a pas cherché plus de choses que, pour moi, la perruque. Et pour nous deux, les costumes ou les choses comme ça. Pas plus que ça. Je vous assure que c'est venu comme ça.
Et ça vient
dans une grande douceur. Qui n'empêche pas un grand travail aussi, mais très très sérieux, mais pas du tout dans une composition. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le metteur en scène fait passer, alors habituellement c'est l'absurde, etc., il fait passer un petit peu l'absurde au second plan, et c'est plein de poésie, de tendresse, elle l'appelle, alors ça c'est dans le texte, elle l'appelle mon chou, il l'appelle ma crotte, c'est
ça ?
Oui,
ma crotte,
c'est plein de tendresse, quand on voit ces petits vieux dans la rue qui se tiennent par la main, je trouve ça mignon. Je pense aussi à ce merveilleux film La Maison du Lac avec Katharine Hepburn et comment s'appelle-t-il ? Bon, je ne trouve plus son nom. C'est une pointure. Bon, je ne trouve plus. Je vache avec les noms. C'était ça, c'est deux vieux. Alors là, c'est deux vieux, c'est différent. Ils tombent amoureux.
C'était pas Spencer Tracy.
Spencer Tracy. Ah, oui, c'est lui. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et on voit quelquefois des petits vieux comme ça qui se tiennent par la main, qui marchent. Donc justement, on parle de ça. On va quitter les chaises un petit peu quand même. Ce travail sur le corps du comédien. C'est important parce qu'il y a le corps, il y a la voix, il y a les mots, et il y a, j'allais dire, l'esprit. Il y a tout ça. Donc, il y a tout ce travail qui est imbriqué. Comment vous le ressentez, vous, cette imbrication de toutes ces choses?
Je crois que la convention fait qu'on ne voit plus les moments où, par exemple, on n'a plus... la petite démarche hésitante. Parce que ça arrive dans le spectacle. Brusquement, on fait des choses,
on manipule les
chaises, là, par exemple, avec une grande dextérité. Hein. C'est au même titre que l'imaginaire qu'ils développent tous les deux. C'est assez incroyable.
Oui.
L'imaginaire du dialogue avec les gens, les personnes invisibles. C'est quand même incroyable.
Oui, ça, c'est formidable.
Donc, ça, il y a un moment où, par exemple, ils ont brusquement des mouvements beaucoup plus jeunes, mais on ne le voit pas. Mm-hmm. C'est l'important, c'est ce qu'on a donné au départ.
C'est-à-dire qu'à partir du théâtre, à partir du moment où vous dites Nous sommes vieux, regardez comme nous sommes vieux. Nous avons d'ailleurs tous les attributs des vieux. Regardez notre démarche. Et à un moment donné, on nous suit, on y croit. Ça, c'est magnifique. Il n'y a qu'au théâtre qu'on peut faire ça. Au cinéma, ça marche moins bien. Mais au théâtre, voilà, hein, c'est comme dans les pièces de Marivaux, les travestis. Il suffit que la femme dise, ben voilà, je vais me travestir. Voilà. Et elle n'est pas obligée de ressembler à un homme, de se mettre une grosse voix, une grosse barbe et tout ça. Pas du tout. On la suit. On est avec.
On n'a pas besoin d'un grand décor, d'un côté grand machin. Mais c'est intéressant parce qu'il convoque ces fantômes qui ont dû peupler leur vie, mais il convoque aussi leur vie, leurs problèmes, leurs disputes, l'enfant qu'ils n'ont pas eu ou qui est mort, je ne sais plus. Il convoque tout ça aussi. C'est un petit peu. Ça m'a fait penser à ça aussi quand il paraît que quand on a un accident de voiture ou qu'on sait qu'on va mourir, on voit défiler toute sa vie très très vite comme ça. Oui. C'est un peu ça aussi.
Oui, oui.
C'est riche finalement, Ionesco, c'est fou.
Oui, c'est fou. Mais ça, c'est justement la grande force aussi de Bernard, et je crois de Bernard Lévy, d'avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, éviter simplement la grosse farce ou et l'absurde pour tendre. Pour tendre ce texte, qui est la colonne vertébrale du texte est parfaitement respectée et elle est forte.
Et elle est forte et elle est dans l'aujourd'hui. Ouais. On pense aussi, moi en tout cas, par moments, on se dit, est-ce qu'ils sont peut-être morts finalement ? C'est peut-être la vie après la mort, comme huis clos avec ces gens comme le huis clos de Sartre. C'est peut-être eux les fantômes finalement. Ouais. Il y a peut-être des gens sur les chaises.
Mais je pense, nous, on peut pas en parler vraiment, mais je pense qu'il y a aussi avec les lumières de Christian Pinault, le décor de notre ami Lagarde, les costumes et tout ça, fait qu'à un moment donné, je crois, quand on nous voit au second plan du décor, on a l'impression de fantômes comme ça avec les lumières. Ouais. Je crois qu'on m'a dit ça, moi. Moi, je peux pas voir. Je suis à l'intérieur, donc voilà.
Oui, puis il y a cette espèce de couloir au fond.
Voilà,
où les gens sont censés
Et puis le son. Le son aussi de Xavier Jacquot, comme ça, qui fait que... Parce qu'on est forcément avec ce décor fait de plexiglas, c'est ça On a des micros, mais des micros qui restituent notre voix telle qu'elle est, qui n'amplifient pas la voix. Mais qui la restitue,
C'est très bien fait.
C'est très bien fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a une manie de la sonorisation au théâtre quand elle n'est pas nécessaire. Là, elle est nécessaire. Ouais. Et j'ai vu récemment, j'étais à la première de... Je l'ai dit d'ailleurs à cette antenne, Oreste à la Comédie Française. Et ils les ont sonorisés. Et c'est très désagréable parce qu'on ne comprend pas. Par moments, on n'entend pas ce qu'ils disent. Alors, c'était la première. Ils ont sans doute corrigé. Oui. Mais pourquoi sonoriser les... En plus, à la Comédie Française, ils sont rompus à tout ça, à la diction. Pourquoi les avoir sonorisés ? Et c'est une manie maintenant. On sonorise, c'est comme la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était une de mes questions, l'excès de vidéo au théâtre. Parfois, c'est nécessaire aussi.
Oui, alors évidemment, elle n'est pas toujours bien employée. C'est peut-être...
Là, c'était obligatoire.
Vidéo au théâtre, on en abuse partout maintenant. Parfois, c'est bien géré. Là, j'ai vu, c'est magnifique, à Chaillot, Découflé. Ça s'appelle Solo. Il est tout seul en scène. Oui. Alors là, il y a de la vidéo, mais c'est fantastique. Il est tout seul, puis il est démultiplié. Ça fait une espèce de kaléidoscope. Là, on comprend, parce que la vidéo, c'est un personnage là, du spectacle. Mais souvent, c'est la vidéo comme ça, en plus.
Oui, ça c'est...
C'est trop.
Moi, je n'ose plus dire mon avis profond là-dessus, parce que j'ai l'impression que, je suis un vieux maintenant, allez, on n'en parle plus.
Mais
j'ai fait récemment un seul en scène, avec le même metteur en scène, Bernard Lévy, qui était absolument magnifique avec, justement, de la vidéo. Mais elle était quand même...
Mais la vidéo était, oui, moi qui étais spectatrice de ce spectacle, c'était le décor, la vidéo. C'était pas un plus. Non. Voilà, je pense que vous...
Vous voulez dire
un truc, une chose en plus. Alors, effectivement, c'est un art qui arrive de plus en plus. Alors, je pense qu'on en abuse, effectivement, comme les bonnes choses, quoi. quoi. Hein. Trop de sucre, bah, ouais. C'est moins bon que le...
Non, puis il faut que ce soit, voilà. Nécessaire, il faut que ce soit... Ouais. Ouais. Mais je suis contente qu'on ait parlé des chaises, parce que souvent, il paraît qu'ici, les auditeurs disent que c'est bien parce que quelquefois, ils ne peuvent pas aller voir les pièces.
Oui.
Et alors, dans une autre émission qui est plus courte, qui fait un quart d'heure, dans laquelle je parle très très vite souvent pour parler de plusieurs pièces que j'ai vues. Et là, on a, pour une fois, on a pris le temps, en plus avec les comédiens. Donc, et puis un couple de comédiens qui jouent un couple, ça c'est pas... On a jamais fait ça dans cette émission-là, donc je trouve ça très bien.
Mais on a déjà joué ensemble...
Alors la première fois c'était Diderot. Je jouais dans Le rêve de D'Alembert, mise en scène de Jacques Nichet, et puis Thierry est venu remplacer un comédien. Voilà, donc nous avons joué ensemble à un moment donné. Ensuite, nous avons joué ensemble, toujours dans une mise en scène de Jacques Nichet, Le Triomphe de l'amour, quand même.
Quand même, oui.
Quand même, voilà. Et là, j'étais enceinte de notre troisième fille. Et ensuite, nous avons joué un petit peu aussi dans des pièces de Christian Caro. On s'est retrouvés aussi dans une pièce de Carole Thibault, enfin voilà. Mais là, vraiment, oui, là, c'est une belle chose.
C'est vraiment superbe.
Ah, puis c'est très agréable, vous savez, de jouer ensemble.
J'imagine,
très agréable.
Oui,
oui. On rigole beaucoup, quand même.
À la Cartoucherie, là, on traversait le parc floral.
Oui. Pour aller...
En faisant une petite italienne.
En faisant une italienne.
Oui.
Tout en regardant les...
Non,
une italienne pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est quand on répète le texte en boucle et très vite pour pouvoir le mémoriser.
Ne plus
penser après, ne penser qu'à l'interpréter. Et la transmission, vous n'avez pas envie de monter un cours? Daniel Mesguich a monté un cours de comédie, je ne sais pas ce où il y en est.
Ah, alors...
Pourquoi ne pas...
Oui, moi, avec Thierry, on aime bien faire ça. Moi, je fais ça encore un petit peu, moins souvent maintenant. Mais puis Thierry encore moins souvent que moi. Mais on a bien aimé faire ça. Moi, j'ai souvent été intervenante dans des classes de lycée option théâtre, donc ça m'a bien plu. Et effectivement, à un moment donné, on pensait ça. Oui, ça nous arrive. Là, Thierry récemment, il a fait travailler une jeune fille pour
la classe libre de
Florent, par exemple, voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas mal. Mais voilà, moi, pour l'instant, je
moi j'adore ça, j'adore
transmettre,
diriger,
oui, bien sûr.
J'adore, et puis c'est pas seulement la transmission, c'est que nous-mêmes ça nous enrichit.
Ah ben bien sûr.
Évidemment. Bien sûr.
Ben oui, parce que de toute façon, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, donc ça aide. La télévision.
Ah.
Oui.
La télévision, moi je trouve qu'on est assez un petit peu partout assez décadent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et la télévision contribue pas mal, à mon sens, à ça. Autrefois, on avait du théâtre à la télé. Alors on voit quelquefois, l'autre jour j'ai vu je ne sais plus quelle pièce de boulevard. Tardivement à la télévision. Autrefois, il y avait du théâtre, théâtre ce soir, etc. Alors, on ne va pas jouer les vieux en disant c'était mieux avant, de notre temps, etc. Mais c'est vrai que la télévision pourrait être un vecteur pour porter. Il y a des retransmissions d'Avignon, peut-être
sur Arte,
deux dans les trucs.
Oui.
Mais elle devrait être un vecteur pour porter le théâtre comme ça. Et on prend un programme, je regarde les programmes quelquefois, il y a des soirs sur toutes les chaînes. Sont des séries sur toutes les chaînes. Il y a des séries qui sont bien, certainement, mais même Arte s'est mis aussi.
Les séries, ça s'améliore, je trouve.
Ça s'améliore,
En France, je veux dire, les Françaises, ça s'améliore.
Oui, il y en a qui sont pas mal.
Moi, personnellement, et toi aussi, je crois qu'on ferait bien partie d'une bonne...
comme comédien, je comprends.
Voilà.
Moi, je suis une grande fan des séries. Hein.
Oui,
mais c'est le problème...
Mais pas le théâtre, effectivement. Le théâtre n'existe pas trop. Ouais. Et même quelquefois avec Thierry, moi, je sais, et puis toi aussi, Thierry, on rate quand, par exemple, il y a ce qu'on appelle maintenant les bandes-annonces théâtrales, vous savez, les trucs qui ne donnent pas du tout envie. Moi, j'ai cité aucun spectacle, mais heureusement que je suis allée voir le spectacle, parce que j'étais invitée à aller voir un spectacle à la Comédie Française. J'ai vu ce qu'on appelle la bande-annonce qui ne me donnait absolument pas envie d'aller le voir. Je suis allée voir ce spectacle, je trouve que c'est un spectacle génial.
C'était quoi?
Je vais quand même vous le dire. Formidable spectacle. Mise en scène d'un Allemand. Ostermeyer, la nuit des rois. Magnifique.
Ça a été très contesté.
Eh ben voilà, moi j'ai trouvé ça magnifique.
Moi j'ai bien aimé aussi, mais ça a été très contesté.
Ben voilà. Donc voilà, mais donc méfions-nous aussi du théâtre filmé. Mais là je parle effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Oui, maintenant il n'y a pas de théâtre à la télévision ou très peu.
Non,
ou...
c'est dommage.
Oui.
Mais Ostermeyer, ça peut être, c'est la langue des op, hein. Ça peut être le pire et le meilleur. C'est comme Varlikovski, j'arrive jamais à dire son nom, qui va monter un truc d'ailleurs. Et Avignon.
Oui. Ah ben, pas cette année.
Pas cette année, mais sinon vous y êtes allé souvent.
L'an dernier, j'ai encore remplacé au pied levé un comédien. Quatre jours avant la première, je m'en suis bien sorti. Mais cette année, je pars demain d'ailleurs pour le festival de Grignan, où nous jouons 43 fois dans ce même festival, Ruy Blas.
Et c'est pas Grignan le truc sur les correspondances.
C'est Grignan, le festival de correspondances.
Il y a un moment où on s'arrête. D'ailleurs, je crois que ce sera un arrêt très profitable, 7 jours ou 8 jours pour le
festival de correspondance.
Pour laisser la place
Et
on reprend jusqu'au 24 juin.
Mais il y a plein de choses qui se passent comme ça. Enfin, Grignan, c'est connu. Mais il y a une chose qui est plus pour les amateurs ou en Corse avec, comment s'appelle-t-il ?
Robin Renucci.
C'était avec Charles Charras, qui avait été un de mes professeurs de poésie au TNP.
Ah bah, ça a été mon prof, moi.
Ah oui, bah, moi aussi.
Ah oui.
Et Charles Charras s'occupait de ce truc-là aussi. Et il voulait que j'y aille, et puis il est mort à
moi. J'ai fait le cours Charles Dulin, en fait.
Bah, moi aussi. Avant Florent, mais enfin bon, on en parlera hors antenne. On va mettre une petite. Alors, du Bachung, ça s'appelle Immortel, c'est ça ?
Oui.
C'est dans quoi ?
Une chanson de Dominique A, reprise absolument formidablement par Alain Bachung. Heureusement que je suis là pour
Dominique
préciser.
C'était dans son dernier opus ?
Oui,
c'est le dernier
disque posthume.
D'accord.
Voilà, de Bachung.
Alors, on écoute Immortel.
Jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu devinez que des dieux se cachaient sous les faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisés, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le goût en revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Voilà, immortels. immortel, Alain Bachung, ouais. qui est parti trop tôt. Et la musique alors, puisqu'on écoute ça, est-ce que vous avez touché d'un instrument, comme on dit, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre?
Pas du tout.
Accidentellement, malheureusement, j'ai pas touché très jeune, du piano ou quelque chose comme ça, ou le violoncelle, j'adore. Mais non, j'ai touché pour le théâtre d'un instrument avant, la contrebasse avant. Que tu as un tuba très grand, voilà.
Et le chant non plus?
Le chant,
on est forcé
quelquefois
de chanter, oui. Ça m'est arrivé.
Mais sans plus.
Moi j'ai chanté beaucoup dans un spectacle, dans un Shakespeare, La Nuit des Rois, où je faisais Feste. Et là, il chante 9 fois quand même.
Ah oui, quand même?
Oui. Avec les autres ou tout seul ou...
Voilà. Vous êtes quoi? Vous êtes baryton?
Plutôt ténor.
Ténor?
En fait,
oh,
oui.
Avec la voix qu'il a.
Ah oui, c'est bizarre.
Moi, oui, c'est très bizarre.
Oui, c'est comme ça.
Alors, vous parliez tout à l'heure de Ruy Blas.
Oui.
Alors, vous jouez qui?
Alors, moi, je joue le grand méchant.
Le grand méchant.
Don Salluste.
Waouh.
Voilà, qui essaye de se venger... Voilà.
Ah oui, c'est le même metteur en scène. Et quels sont vos projets, là?
C'est d'abord Ruy Blas.
Oui,
ensuite,
après.
Ce sera reprise de tout ce que j'ai joué ces derniers temps, à savoir entre Avec Emmanuel Les Chaises, ouais. La Cerisée de Tchekhov, il y a quelques dates de reprise. Je vais reprendre un seul en scène que j'ai fait avec Jacques Nichet tout récemment, Compagnie de Beckett. Beckett, j'adore. J'avais déjà joué, bien sûr, dans 2 prods différentes, Godot et Fan Party.
Voilà, et puis moi, je vais rester à la maison, faire le ménage et la cuisine.
La femme au foyer, c'est bobonne à la maison.
Oui, c'est ça, bah oui. Non, je plaisante. Non, moi, je n'ai pas de projet théâtraux, sauf la reprise des Chaises. Mais je crois que j'ai un troisième roman, quand même. Je n'ai pas arrêté au deuxième.
Ah ben, vous pouvez.
Un troisième roman.
J'en suis au huitième.
Et puis là, il va y avoir une belle chose, parce qu'il y a... Donc, je vous ai parlé d'un peu de réalisation cinéma que j'ai... J'ai tourné avec René Alliot et il y a les carnets de René Alliot, les derniers cahiers qui vont jusqu'en... Ah ça y est, j'ai oublié la date, jusqu'en... avant que je le rencontre, jusqu'en 1980, qui vont être publiés. Donc je suis invitée là prochainement, le 11 juin, à la librairie théâtrale du Panthéon, cinématographique du Panthéon, pour présenter le livre de René. Voilà, donc des petites choses comme ça. Et puis... Oui, puis je pense à l'écriture quand même beaucoup.
Oui,
voilà.
Écrivez pour le théâtre.
Oui.
On parlait de musique tout à l'heure. C'est rigolo parce que dans Les Chaises, on entend sur un vieux poste de radio Paul Naref qui chante Love Me, Please Love Me. Voilà. Il aurait pu chanter J'ai la mémoire qui flanche, mais il aurait pu faire ça. J'avais une question qui m'échappe. La compagnie, vous avez monté vous une compagnie une fois?
Oui.
Et vous, jamais?
Non, jamais. Non, jamais.
Vous devriez en monter une tous les deux. Non, mais c'est vrai, je suis sûre que ça marcherait. Parce que si ça marche bien entre
tout
vous
est
en
possible.
Scène, monter une compagnie et nous faire du vrai théâtre, quoi.
Par exemple, vous posiez la question tout à l'heure de si on aimait enseigner. Le théâtre. Je crois qu'on partage ça, tous les deux.
Mais c'est toujours
pareil, vous vous arrêtez un peu en vous disant, c'est tellement difficile aussi, ce métier. Alors, vous préparez
Vous voulez dire que c'est une responsabilité parce qu'ils ne vont peut-être pas avoir de boulot?
Oui,
mais de toute façon, si vous n'avez pas de cours vous-même, ils iront ailleurs s'ils ont envie d'essayer. Donc, c'est une mauvaise réflexion parce qu'ils essaieront de toute façon. Ouais. Il faut qu'ils fassent leur truc. Et qui sont vos auteurs de prédilection que vous aimez le plus jouer, dans lesquels vous vous sentez le mieux, l'un et l'autre, évidemment, séparément, dans l'ordre que vous voulez?
Vas-y.
Je ne sais pas, je réfléchis, vas-y.
Elle vient de remplacer quand même dans un spectacle de 8 heures.
Oui, l'année dernière. La princesse de Clèves.
La princesse de Clèves.
Oui, alors c'est bien parce que tu m'aiguilles vers des textes que j'aime beaucoup. Bah oui, le 18e, j'aime forcément beaucoup. Mais je ne suis pas insensible au contemporain. Donc, oui, le 18e, oui, bah oui, on va parler de Diderot. Bah oui, voilà, enfin bon. Voilà, mais sinon, des auteurs de prédilection, est-ce que... Vas-y, continue. On va dire Tchekhov, parce que Tchekhov, voilà, Tchekhov, c'est la comédie, c'est la tragédie. C'est voilà, quand c'est bien traduit, quand c'est bien traduit par Markovitch, c'est formidable. Donc, voilà, on aime bien.
Je viens de jouer mon premier Tchekhov. Je n'ai jamais joué ça. Il a fallu que j'attende mes 74 ans.
Avec tout ce que vous avez fait, il y en a une telle liste, il n'y a pas de Tchekhov dedans.
Jamais. Il y a eu plein de propositions, parce qu'il y a eu un moment où je devais, avec la fille avec Irina Brooke, oui. En faire un. Puis au dernier moment, non, papa l'a fait, j'ose pas, bon, etc. Et du coup, voilà, j'ai surtout joué, j'adore, mais Shakespeare, beaucoup, beaucoup. Plein de pièces, Beckett, ça c'est évident, bon c'est des choses très très différentes.
Beckett, Ionesco, c'est pas la même chose, mais il y a
quand même, c'est pas du tout la même chose,
c'est contemporain, en même temps il y a un écho quelque part. Et les metteurs en scène avec qui vous aimez le plus travailler, ils se fâcheront pas, parce que si on parle pas de certains, on pensera juste qu'on n'avait pas le temps, qu'on les a pas oubliés. Non, mais il y a Bernard Lévy, visiblement vous aimez beaucoup travailler avec lui, sinon une grande expérience de mise en scène.
Alors, c'est fou, parce que tout... le metteur en scène Mathias Langhoff...
Langhoff, vous avez travaillé avec lui?
J'avais travaillé avec lui.
Oui, moi aussi.
Magnifique.
Lavelli, non?
Je n'ai jamais travaillé avec lui, on se connaît, mais j'ai beaucoup aimé travailler avec Hélène Vincent, par exemple, la comédienne Hélène Vincent. J'en ai fait deux avec
elle. Vous avez raté Chéreau et Vitesse.
Je devais le rencontrer, et puis je me suis arrêté au troisième étage, à l'époque où j'étais tout jeune, de la Maison des Lettres, et je ne suis jamais monté au cinquième, où j'avais rendez-vous, voilà.
Et Vitesse,
j'ai beaucoup aimé travailler avec Jacques Nichet,
Vitesse, tu n'as pas travaillé. Moi non plus, je n'ai pas travaillé avec lui.
Non, jamais. Mais on s'est connus.
Mais moi, c'était Strasbourg.
Il a vu, la première mise en scène que j'ai faite dans le temple de mon père, qui a été sélectionnée au Festival de Nancy, qui était un festival très important à l'époque. Mmh. Et là, il m'avait, je me souviens, demandé et invité, j'y suis allé, dans un colloque à Turin pour parler de la fable.
C'était un grand monsieur et qui était très, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, qui était très abordable, très très ouvert, très gentil. On a beaucoup parlé avec
lui. Vous parlez de Vitesse.
Vitesse. Oui. On a beaucoup parlé avec lui au Festival d'Avignon, et on l'a rencontré dans des réunions de journalistes de trucs religieux. Mmh. Et je me souviendrai toujours. Il a dit un jour à quelqu'un qui lui dit, mais vous n'êtes pas croyant, etc. Il a dit, mais la Bible ne vous appartient pas. Il s'est levé. Je me souviens. Mmh. La Bible ne vous appartient pas. Et je lis la Bible presque tous les jours. Et ça, c'est pas parce que je ne crois pas. Et puis ne pas croire, c'est aussi une croyance.
Ça ne m'étonne pas.
C'était quand même un monsieur très ouvert à plein de choses. Et moi, j'ai beaucoup aimé le rencontrer.
Alors, il y a aussi, là, actuellement, je répète avec Bonnen, j'ai pas encore abouti, je suis pas en répétition. Mais un metteur en scène qui m'a beaucoup marqué, c'est Lupa.
Vous avez travaillé avec Lupa.
Voilà.
Écoutez, notre temps arrive au bout. Donc, je vous remercie d'être venu, de nous avoir confié tout ça, d'être venu en couple. C'est la première fois que je reçois un couple comme ça. Et puis, d'avoir comme ça détaillé toute cette pièce. Je trouve que c'est pas ce qu'on fait d'habitude dans l'émission. D'habitude, on parle de tout ce dont on a parlé après. Mais là, avoir décortiqué la pièce, avoir dit comment vous l'avez travaillée, ressenti, tout ça, je trouvais ça très bien. Donc, merci beaucoup. C'était donc, Emmanuel Granger, je suis fâchée avec les noms moi, et Thierry Bosque. Oui. Et merci à notre technicien, c'était Emmanuel aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain, non pas brigadier, mais pour le prochain, je trouve plus le nom, Arlequin, manteau d'Arlequin.
He answered, How much do I love you? Count the stars in the sky. Measure the waters of the oceans with a teaspoon. Number the grains of sand on the seashore. Impossible, you say?